Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en priant ensemble, est on ne peut plus orthodoxe. Orthodoxe dans le sens que nous répétons les pratiques de l'Église indivise d'avant le schisme. Nous faisons exactement ce que faisaient les premières communautés de chrétiens, nous réunir ensemble pour prier au nom du Seigneur. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Personnellement, je suis toujours un peu mal à l'aise lorsque j'entends parler de l'union ou de l'unité des églises. Comme s'il y avait plusieurs églises, toutes différentes, et qu'il serait bien de n'en avoir plus qu'une seule. Et la question qui suit immédiatement, c'est « oui, mais laquelle ?» Et c'est là que les problèmes commencent. Quand j'entends cela, je ne peux m'empêcher de penser à McDonald's ou à la vision McDonaldienne des choses. C'est magnifique, McDo. Où que vous soyez dans le monde, vous allez trouver un même hamburger, la même ration, cuisiné de la même façon, dans le même décor, avec le même message d'accueil. Cette vision a quelque chose de rassurant et de mortifère à la fois. Car il n'y a plus de voix, il n'y a plus de vie, de richesse partagée. Tout est figé sur un standard. Est-ce ainsi que doit être la vision d'un chrétien, d'une église unie? Notre modèle de vie, à tous, quelle que soit l'institution qui nous accueille, c'est la Trinité. C'est le premier dogme que les trois premiers conciles œcuméniques ont défini. Il y a trois personnes en Dieu qui sont unies sans confusion. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Père. Mais chacun est uni à l'autre dans une relation d'amour. Chacun se donne et se reçoit de l'autre. Une égalité dans la distinction, dans le respect de chaque personne. McDonald's, ce n'est pas l'unité, c'est l'uniformité dans la confusion. Il n'y a plus de personne. L'Église, avec un grand E, c'est l'unité dans la diversité. Chaque personne est unique et a son rôle à jouer. C'est ce que nous dit saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Le corps est un, et pourtant il y a plusieurs membres, mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. Paul utilise la métaphore selon laquelle l'Église est le corps du Christ pour décrire son unité dans la diversité de ses membres. Le corps a plusieurs membres distincts qui ont chacun leur fonction. La main n'est pas le pied, l'œil n'est pas l'oreille, mais tous les organes, tous les membres, même les plus faibles, comme il nous dit, sont nécessaires pour former l'Église. Il n'y a pas un membre qui est plus important que les autres. Personne ne peut se prévaloir à lui tout seul d'être l'Église, la seule institution. C'est un non-sens ecclésiastique. Paul, dans son épître aux Colossiens, explique sa pensée sur le rôle du Christ en tant que tête du corps unifié, composé de divers membres, en déclarant « Il est lui la tête du corps qui est l'Église ». Saint Paul nous invite à sortir de notre logique d'Église-institution. Non, l'Église n'est pas d'abord une institution humaine, mais c'est le Christ lui-même, rempli du souffle de l'Esprit auquel nous adhérons. Nous sommes tous différents parce que nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Chacun a reçu des dons qu'il est appelé à développer pour bâtir l'Église du Christ. Le Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et la première étape sur ce chemin, c'est le baptême. En demandant le baptême, le Christ est apparu au grand jour. C'est aussi à ce moment que la Trinité nous est révélée par la voix du Père et l'Esprit, sous forme d'une colombe. Nous avons tous été baptisés, quelle que soit notre institution, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint Paul, dans son épître aux Galates, dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous êtes devenus semblables à lui. » Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et concrètement, devenir semblable au Christ, c'est devenir des êtres d'amour agapés. Ah, c'est un amour qui se donne, qui n'attend rien en retour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour agapé les uns pour les autres. C'est l'unique message pour réaliser l'unité de l'Église. Le deuxième événement important et nécessaire pour cette unité a été la Pentecôte. C'est là que s'est concrétisée l'Église, le corps du Christ. C'est par la descente de l'Esprit de Dieu sur chacun d'eux que les premiers chrétiens ont réalisé la puissance de l'Esprit. Le Christ nous l'avait dit, « Le Paraclète, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. » Le Christ et le Saint-Esprit sont les deux mains du Père, disait saint Irénée de Lyon. Ces deux mains œuvrent en synergie en chacun de nous pour bâtir le royaume d'amour de Dieu. L'Esprit, c'est la force de Dieu, c'est le souffle de Dieu, c'est l'haleine de vie que Dieu insuffla dans Adam. C'est ce qui nous donne vie. Par la descente de l'Esprit en chacun de nous, nous devenons une personne unique. Et c'est la communion au Christ de chaque personne avec ses spécificités propres qui forme l'Église de Dieu. Saint Rougier, un prêtre écrivain catholique, écrivait « Nous sommes sur terre en stage d'amour. Notre maître de stage, c'est le Christ, et notre entraîneur, c'est l'Esprit Saint. C'est par eux, dans l'Église, que nous progressons dans l'amour agapé, c'est-à-dire vers Dieu. » Pourquoi l'Esprit doit-il avoir une place importante pour nous? Parce que c'est lui qui va nous transformer pour nous rendre chaque jour un peu plus semblables à Dieu. C'est lui qui nous accompagne sur notre chemin de déification. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, dit saint Paul dans son épître aux Romains. Ce n'est pas par nos actes, ni par notre volonté propre que nous serons sauvés. Car par sa mort et sa résurrection, le Christ nous a déjà sauvés potentiellement. Mais c'est en nous ouvrant à la présence de l'Esprit, en nous laissant pétrir par lui, que nous avancerons sur le chemin de notre déification et que l'Église une deviendra réalité. Pour un chrétien, toutes ses actions, tous ses actes, toutes ses paroles devraient être faits au nom du Seigneur Jésus, en invoquant l'Esprit Saint et en rendant grâce. Et vous verrez que si nous nous laissons habiter par l'Esprit, notre vie va se transformer. Notre regard sur les autres va devenir un regard d'amour. Notre seule espérance, notre but commun, c'est la vie éternelle en Christ, notre déification. Ce qui empêche l'unité de l'Église, ce ne sont pas des divergences théologiques débattues pour certaines depuis presque 2000 ans, dans nos institutions, mais c'est l'orgueil de notre petit moi personnel et institutionnel, et le manque d'amour et d'humilité qui est le seul obstacle. Chacun ne voulant rien lâcher, convaincu qu'il est le seul à détenir la vérité. Vanité des vanités, disait Bossuet. Le Christ est mort sur la croix en prenant sur lui les égarements, c'est-à-dire les péchés de l'humanité. Si chaque Église pouvait s'inspirer du Christ et prendre sur elle les égarements des autres Églises et leur pardonner, on ferait un grand pas vers l'unité en Christ. Notre unique travail sur terre est de nous laisser pénétrer de l'Esprit de Dieu pour coller le plus possible au Christ. Et nous pourrons dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. » Ainsi, prier pour l'unité des Églises, c'est prier pour que chaque personne ouvre son cœur à l'Esprit de Dieu, pour qu'elle prenne conscience de l'œuvre de Dieu à travers lui. Comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. L'unité des Églises n'est pas une question de rites unifiés, de procédures communes, c'est une question d'accueil de l'Esprit et d'amour. À lui soit la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Amen.